Beurre FM, la rediff.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, camarades auditrices et auditeurs.
Oh, allez, et puis aujourd'hui, mon cher Philippe, j'ai pas envie d'être galant, je vais commencer par les camarades auditeurs et auditrices. Voilà, c'est comme ça. Je suis un arabe et chez nous, les femmes, c'est la cuisine et les enfants, et c'est tout.
Et tous ceux qui sont d'accord avec moi, ou devrais-je dire avec nous, mon cher Philippe, qu'ils fassent exploser le standard. Allez, yallah, on vous attend. Toujours est-il que je suis ravi de vous retrouver, car hier, ma journée était toute, Kouda, traduction chiante, pénible, relou. Et ça a commencé dès le matin, mon cher Philippe. J'étais dans ma voiture, je mets 106.9, vous connaissez, je crois, et je reconnais
.7.
Je recommence. Oui. Alors j'ai mis .7. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé l'émission un peu particulière, mais j'ai quand même reconnu votre voix, mon cher Philippe Houet. Oui, je vous entends parler de quoi? Coloscopie, opération du trou de balle. Non, vous m'avez miné. Et je vous jure que c'est vrai, hein, comme tous les ans, j'ai reçu, moi aussi, mon petit courrier de la part de l'assurance maladie. Là, il y a été comme le chien, mais ils ont encore envoyé ce petit courrier pour me dire « Oh, coloscopie gratuite ». Si ça continue, mon cher Philippe, dans 2 ans, je risque de recevoir des pubs sur les cercueils. C'est pas beau de vieillir. Donc, à cause de vous, j'étais miné toute la matinée. L'après-midi, je l'ai passé à la maison d'arrêt de Villepinte. Alors, vous imaginez bien que c'est pas un lieu où tu peux recharger tes batteries. J'ai assuré la défense de mineurs en commission disciplinaire. Le premier gamin que je reçois, alors je dis gamin parce que le type, il a 16 ans.
Wow.
Je me présente. Bonjour, maître Serrano. Oui, bonjour, maître. Il me dit immédiatement, vous savez pourquoi je suis là? Je réponds, parce que vous avez insulté des surveillants, c'est pour ça que vous êtes là et que je suis là. Il me dit, non, mais est-ce que vous savez pourquoi je suis incarcéré? Je lui réponds non, car dans le dossier, en fait, on ne met pas le motif de l'incarcération de l'intéressé. Et là, il me donne la raison de son incarcération que je ne vous répéterai pas. Je vous la répéterai pas parce que la raison de cette incarcération me dit que quand ce type aura fini sa peine, on voyagera sur Mars. Et je me suis dit, c'est donc possible d'avoir fait un truc pareil à seulement 16 piges. Je tenais, au moment où je lui parlais, un stylo. J'ai immédiatement mis dans ma poche. Je me suis dit, ce gamin pourrait me l'arracher des mains et me le planter dans la gorge. Il a plus rien à perdre. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est pas attaché? On est seul dans une pièce de 2 mètres carrés. Et le gamin, il avait même un regard un peu flippant, un peu Damien dans le film La Malédiction, pour ceux qui connaissent. Et puis, retour dans ma voiture. Et là, je mets France Info, intervention de Monsieur Castex, alors que celui qui a compris quelque chose sur les nouvelles mesures qui nous ont été présentées nous appelle. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que Monsieur Castex est prêt à se faire vacciner avec AstraZeneca. Là encore, que celui qui a compris quelque chose sur ce vaccin nous appelle. D'abord autorisé, ensuite suspendu, à nouveau autorisé. T'imagines bien que les gens qui sont réticents à se faire vacciner n'auront pas forcément envie d'utiliser le dit vaccin, à tel point d'ailleurs que Jean Castex lui-même va se faire vacciner avec AstraZeneca. Enfin, je veux pas jouer le complotiste. J'imagine qu'il y aura vraiment une dose d'AstraZeneca dans la seringue. Mais vous savez, on nous a dit que statistiquement, hein, 1 cas sur 1 million où ça se passe mal. Imagine 2 secondes que ça se passe mal pour notre Jean Castex national. La plus personne voudra se faire vacciner. Non, je vous l'ai dit hier. Que des mauvaises nouvelles. Heureusement, une bonne nouvelle se profile, mon cher Philippe. Oui, c'est bientôt le Ramadan. Ah, la bonne nouvelle.
Voilà une bonne nouvelle.
Eh oui, on est content. Non, alors non seulement on doit se reconfiner, mais ton corps aussi va se reconfiner pendant le Ramadan. Oui, tu manges pas, tu bois pas, tu tringles plus. Khlas, c'est fini. Et c'est peut-être ça le plus grave. Allez, que vous soyez déprimé ou pas, appelez le 01 53 48 3000. Posez toutes vos questions, émissions sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon, le roi de la coloscopie. À vous, maestro.
Bon, si Jean Castex nous écoute, si on pouvait être confiné jusqu'à la fin du Ramadan, ça serait bien.
D'accord, mais il n'y a pas une option pour supprimer le Ramadan cette année, c'est pas, ça ne se discute pas.
Ah non,
ça se négocie pas.
Non, si vous voulez votre coloscopie, il faut faire le Ramadan.
Oh.
Ouais.
Alors si vous voulez faire le ramadan, il faut faire la coloscopie ou l'inverse, je sais pas.
Non,
on peut pas le supprimer.
Non, j'ai pensé à vous quand on a fait l'émission, parce qu'effectivement, je sais que tous les ans vous recevez votre votre petite convocation.
Ouais, mais ils m'énervent ces gens-là.
Gratuite. Mais c'est important de le faire, Metzeran.
Ouais, d'accord. Bonjour, je fais le poirier. Allez filmer mon truc.
Non, c'est pas du tout ça.
D'accord.
C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais c'est important pour la santé. Et si vous avez bien écouté l'émission, c'est bien de le faire avant que ça dégénère, surtout.
Non mais c'est pas. Non mais je sais bien. Mais voilà, hein, c'est moi je trouve ça flippant.
Oui.
Flippant. Ça devrait être interdit dans.
Ouais, c'est la première fois qu'il fait mal, Metzeran.
Ah ouais, ouais. D'accord. Bon bah je suis rassuré là.
Ah ouais. On va parler du viager, tiens, en attendant. Ouais. Un sujet qui vous concerne. Alors le viager à la côte, soi-disant, avec une grosse croissance en ce moment. Quels sont les litiges qui peuvent être inhérents à cette vente au viager, finalement ?
Alors, d'abord, simplement pour expliquer pour nos auditeurs qui seraient d'un certain âge et qui se disent ils vont peut-être bientôt clamser d'ici quelques temps, il y a toujours la possibilité de se faire, entre guillemets, un peu d'argent, parce que si vous occupez un bien, alors dont vous êtes propriétaire, évidemment.
Oui, bien sûr. Hein,
ouais, on est d'accord. Donc, un bien dont vous êtes propriétaire, et si pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas forcément envie de faire profiter vos héritiers ingrats toute votre vie et qui n'attendent peut-être que votre mort pour récupérer votre bien, vous avez la possibilité donc de mettre ce bien, comme on dit, en viager. Alors, le principe est intéressant, c'est-à-dire que la personne va venir vous voir en disant « moi, votre bien m'intéresse » et vous avez la possibilité de vendre pour que les auditeurs puissent comprendre. Mais c'est une vente qui est assez particulière, car dans un premier temps, celui qui va se porter acquéreur de votre bien va vous verser ce qu'on appelle un bouquet. Alors, c'est une somme d'argent. Alors, c'est pas obligatoire, mais en règle générale, ça commence par ça. C'est quand même un apport d'argent qui n'est pas négligeable, hein, puisque ça varie entre 25 et 30% de la valeur du bien. Donc, c'est bien quand même d'avoir une sorte de petit pactole. Et ensuite, vous allez tous les mois. Alors après, c'est à déterminer. Vous êtes payé.
Comment c'est fixé justement la mensualité qu'on paye ? Est-ce qu'il y a un barème qui est très strict qu'on doit suivre, ou alors c'est on fait comme on s'entend ?
Ouais, il y a pas de barème officiel. C'est-à-dire que il y a toujours une négociation entre celui qui cède le bien et celui qui va acheter le bien. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de barème officiel ? Puisque ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Alors d'abord, ça va dépendre évidemment de la valeur de votre bien, ça va dépendre aussi de votre âge. Et il est certain que ce paramètre-là va être important, parce que pour bien comprendre, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous engagez dans un viager, ça veut dire qu'en dehors du bouquet, c'est-à-dire de la somme d'argent que vous allez toucher immédiatement tous les mois, vous allez avoir une alors encore une fois, ça peut être par mois ou par trimestre, ça dépend, mais ça c'est un accord entre les uns et les autres, jusqu'au moment où celui qui va acheter le bien va être un homme ou une femme heureuse, puisqu'on va vous dire que celui qui vous a cédé le bien est décédé. Et c'est pour ça que cette mensualité va varier aussi en fonction, on va dire, bon, c'est un peu glauque, mais de l'espérance de vie, mais c'est le propre du viager. Et c'est peut-être pour ça que ce système, qui est pas si négligeable que ça à l'heure actuelle, que ce système a eu du mal à démarrer, parce que on parie tout simplement sur la mort de celui à qui on a acheté le bien. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en vérité, vous passez 95% de votre temps, j'imagine, à souhaiter la mort de ce type-là, puisque s'il clame ce vite, vous arrêtez de payer. Enfin, c'est aussi basique que ça. Mais c'est vrai que c'est un pari sur la mort de l'intéressé. C'est ce qui fait qu'en règle générale, les personnes qui veulent céder le bien et qui optent pour le viager, ça commence, on va dire, à partir de 70-75 ans.
Bah, l'idée aussi aujourd'hui, c'est avec la baisse des retraites et des pensions, c'est pour la personne qui a un bien, c'est de faire un complément de retraite.
C'est exactement ça
l'intérêt.
Ça. Ouais. C'est pour faire un complément de retraite, pour éventuellement...
Pas négligeable d'ailleurs, et continuer à occuper le bien.
Alors, c'est une option. Alors le complément de retraite est intéressant, et puis alors, et si vous occupez pas le bien, et ben ça vous servira à financer votre maison de retraite où vous serez effectivement maltraité, mais ça coûte très cher. Donc les gens sont heureux en maison de retraite, hein, faut pas déconner, tout le monde sait comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un complément. Alors pourquoi c'est un complément? Bah parce que vous pouvez aussi avoir des enfants un peu ingrats, c'est-à-dire qu'on pas forcément envie de d'abord de s'occuper de vous ou de vous balancer dans une maison de retraite low cost. Donc quand c'est comme ça, moi je considère qu'il faut être un peu égoïste et puis quitte à emmerder vos enfants en disant vous allez bénéficier de rien, voilà, débarrassez-vous de votre bien et profitez de cet argent pour les dernières années ou les derniers mois qui vous reste à vivre. Mais c'est vrai que c'est encore une fois, c'est un complément qui est pas négligeable. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que, alors, vous pouvez évidemment occuper le bien, et ça c'est quand même une bonne chose, puisque vous restez chez vous, vous avez tous vos repères, mais vous avez aussi la possibilité de laisser le bien libre, et dans ce cas, c'est celui qui se porte acquéreur du bien, donc qui va tout simplement l'occuper. Bon, après, c'est une option, mais voilà, vous comprenez bien que si le bien est occupé par vous ou pas, le prix, évidemment, va de facto varier.
Alors, qu'est-ce qu'on fait si l'acheteur cesse de payer ses rentes mensuellement?
Alors, ça peut évidemment arriver. Il faut savoir que le viager va, en tout cas, le contrat va se conclure auprès d'un notaire, et le notaire va prendre une garantie. C'est-à-dire que si demain les mensualités qui ont été prévues en plus de la soulte, et je le redis, mais vous l'avez évoqué, la soulte n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez avoir que vous pouvez avoir que des mensualités. Bah si vraiment le contrat n'est pas respecté, donc il y a cette garantie qui permettra tout simplement à celui qui vous a cédé le bien de le récupérer par la suite. Donc les notaires sont très carrés là-dessus, d'abord en matière de conseils, mais c'est très bien ficelé. Donc il y a le risque que vous tombiez sur un pénible qui cesse de vous payer, mais il n'y a pas plus d'inquiétude que ça si vraiment ça devait arriver.
Est-ce qu'on peut revendre un viager? Vous achetez un bien, puis finalement vous avez vous pouvez plus faire face. Est-ce que vous pouvez le revendre?
C'est une option qui est tout à fait possible, puisqu'encore une fois, à partir du moment où vous portez acquéreur dans le cadre d'un viager, vous devenez, on va dire, officiellement le propriétaire du bien, celui qui va rester sur place, en possède, comme on dit, que l'usufruit, c'est-à-dire l'usage. Mais si demain, après-demain, vous avez envie de céder le bien, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, il n'y aura pas ce système de bouquet en la matière, mais c'est tout à fait possible et vous pouvez effectivement.
Et donc, c'est le nouvel acheteur qui, lui, s'acquittera des mensualités,
Devra verser les mensualités. Je vous dis, la seule différence, c'est que si vous êtes le premier acquéreur de ce bien, il y a ce bouquet et ses mensualités, si bouquet a été discuté ou négocié. Mais si vous, de votre côté, vous décidez de le céder, c'est juridiquement possible, mais il n'y aura évidemment pas cette histoire de bouquet, il y aura simplement ces histoires de mensualité. Mais c'est techniquement possible, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Bien, allez, d'autres questions, si vous en avez à Maître Serran, vous pourrez les poser en direct dans un instant. Vous nous appelez au standard 01 53 48 3000. Maître Serran, vous allez pouvoir goûter votre panettone à la truffe.
Je vais d'abord nettoyer mon chocolat.
Ah, ça y est, ça faisait longtemps. Voilà, ouais. Tenez, Maître Serran, j'ai des lingettes. Ouais, ça y est, Maître Serran a baptisé le bureau. Ça fait longtemps que vous n'avez pas remboursé.
Ah oui, la semaine dernière, j'aime pas ça, sur mes lunettes et tout.
Ouais, votre chocolat, il y en a partout. Ouais. Donc, alors, le temps que Maître Serran fasse un peu de ménage, et dans un instant, il répond à vos questions, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, prenez un peu de chocolat là, allez-y.
Et je vous remercie, voilà. Mon cher Philippe, vous avez la gentillesse de m'offrir un chocolat.
Le budget chocolat a explosé aujourd'hui, Maître Serran.
Oui. Hein. Bon, ça va, on a nettoyé la table, tout est propre.
On est bien là. Voilà. Donc on peut accueillir nos auditeurs au 01 53 48 3000. Sonia est avec nous. Sonia, vous êtes la bienvenue.
Sonia?
Sonia.
Ah, il y a des prénoms comme ça qui vous font sonner, justement.
Sonia est là.
Sonia, vous êtes là? Elle est partie, Sonia?
Elle a eu peur. Non, attendez, Sonia, est-ce que vous nous entendez?
Ah,
ou bon. Pas? Bon, alors, attends, on a Karim. C'est bien, Karim?
Oui.
Bon, on y va. Karim. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Karim.
Vous m'entendez? Bonjour.
Alors, ça, c'est pas Karim, ça. Ça, c'est Sonia.
Non, c'est Sonia.
C'est Sonia. Ah, on est revenu avec Sonia. Comment ça va, Sonia?
Ça va, merci. Je vous appelle parce que j'avais une petite question. J'avais pas en idée cette solution de viager. Moi, je vous explique la situation. Je travaille à mon compte, donc du coup, je prévois ma retraite. Et j'ai pas de descendance, donc j'étais en train de réfléchir sachant que j'ai un bien, comment compléter ma retraite dans quelques temps. Donc, la question, c'était pour le VAG, sachant que c'est un bien en crédit, est-ce que c'est toujours valable ou non?
Ah, il faut que vous, voilà, il faut qu'il y ait quand même la pleine propriété, puisque, alors, sauf si l'établissement bancaire donne, entre guillemets, son feu vert, mais l'établissement bancaire ne prendra pas ce risque-là. Si vous accordez un crédit, c'est qu'il considère, en tout cas, à ce moment-là, que vous étiez solvable. Et, oui. Et les banques, en règle générale, pour leur faire accepter que la personne qui serait intéressée par le bien est également solvable, bon, elles n'ont pas envie, entre guillemets, pardon pour l'expression, de se prendre la tête. Donc non, on est vraiment en train de parler pour pas que ça pose de difficultés, de bien déjà entièrement réglé. Hein. Ouais.
Exactement. Et si on n'habite pas, il y a une personne qui est en location, c'est faisable aussi ou non?
Bah après, encore une fois, tout ça se discute et se négocie avec la personne qui serait éventuellement intéressée, puisque cette personne va devenir propriétaire, donc elle pourrait elle aussi, si vous n'occupez pas les lieux et s'il y a un locataire, alors entre guillemets l'accepter ou pas, mais vous avez bien compris que il y aura forcément une incidence sur le prix du bien, parce que je prends votre bien, il y a un locataire, moi qu'est-ce qu'il me dit demain que ce locataire va pas me compliquer la vie, alors il peut peut-être arrêter de régler son loyer, il peut décider de ne pas partir, donc voilà, c'est pas la meilleure des options financièrement parlant pour vous, si c'est vous qui voulez qui voulez céder le bien. Donc il y a cet aspect-là, parce que la notion d'aléa, c'est-à-dire de risque, est évidemment beaucoup plus important. Donc alors c'est techniquement possible, financièrement vous vous y retrouvez un petit peu moins quand même.
D'accord. Et il y a un impact sur les impôts ou non?
Alors, il y a un impact sur les impôts. En fait, c'est par tranche et c'est en fonction de votre âge. Plus vous êtes jeune, et notamment si vous avez 50 ans, eh ben vous paierez entre guillemets plein pot. Et puis plus vous allez dans le temps, plus vous êtes âgé et plus vous allez bénéficier d'une ristourne sur le plan impôt. Mais là, vous avez quel âge, sans indiscrétion?
J'ai 50 ans, donc...
Bon.
Oui, mais je n'ai pas de descendance, donc du coup, j'ai réfléchi à tout ça, sachant que pour éviter... j'ai réfléchi à tout ça, c'est normal.
Ouais.
Je suis dans, voilà. Je prévois. Voilà,
50 ans, ouais, faut commencer à y réfléchir, effectivement.
Être sérieux, elle a tout le temps.
Une femme de 50 ans, c'est un homme de 70 ans, non, l'équivalent en âge normal. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ah bon? Non, mais ça va. Je suis plus âgé que notre auditrice. En théorie, mais en pratique.
Ça se trouve, d'ici là, vous serez mariée, Sonia.
Non.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que vous lui proposez de terminer sa vie dans la merde absolue, quoi. C'est-à-dire que cette femme est tranquille, elle a 50 balais, elle est propriétaire et vous voulez lui pourrir sa vie. Tomber sur un mec, pénible qui va mettre le grappin sur Sonia, voilà, et surtout sur son bien. Non, mon cher Philippe, là, le conseil est pas terrible.
Très bien, ok.
Ben, voilà, Sonia.
Merci
à vous, Sonia.
Au revoir.
Alors, Karim, est-ce qu'on a récupéré Karim? Karim. Monsieur Karim.
Bonjour à tous.
Bonjour, Karim.
Bonjour, Karim. On a un plan avec une demoiselle qui s'appelle Sonia, Karim, si ça vous intéresse, et elle est propriétaire d'un bien.
Merci de la proposition, monsieur.
Bon, ben voilà. On vous écoute, Karim.
Alors, moi, j'appelle aussi pour un problème d'ordre immobilier, mais c'est pas du viager.
Ouais.
On a acheté avec ma femme. Hein, je suis marié.
Ça s'explique.
J'aurais dû commencer par ça. Ouais. Je peux m'occuper du divorce. Hein.
Non,
je suis étonné. Faut pas dire des trucs pareils. Il aime sa femme.
Ouais.
Non, Karim, je vous en prie.
On a acheté un bien immobilier. On est passé chez le notaire.
Ouais.
En février 2019. Le bien, quand on est rentré, 6 mois, 7 mois après, il y avait pas mal de pluie. Donc, on a commencé à voir des infiltrations et au niveau du plafond, tout devient vert, en fait, ouais. Ça a décollé. Donc, il y avait pas mal de choses qu'on avait découvert, or que la maison, elle a été, je pense qu'elle a été retapée juste pour la vente.
D'accord.
Donc, quand on s'est retrouvé dans cette situation, en fait, il y avait pas mal d'infiltrations, donc la toiture était touchée. On a contacté l'agence qui nous a vendu, parce qu'on l'a acheté via une agence.
Ouais.
Et donc, on leur a expliqué la situation. Ils ont contacté les vendeurs et les vendeurs n'ont jamais donné de réponse. On a pris pas mal de photos, c'est-à-dire par rapport à l'évolution. On a pris pas mal de photos et on les a envoyées à l'agence qui les a transmises aux vendeurs. Mais ils n'ont jamais donné réponse, quoi, vous voyez.
D'accord.
Donc, est-ce que dans ce sens, on peut les attaquer en justice dans
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, ce qu'il faudrait pour être... alors, indépendamment des photos et tout ça, donc j'ai bien compris que tout ça était visible, mais pour que votre dossier soit carré, il faudrait peut-être éventuellement demander ce qu'on appelle une expertise judiciaire. Alors, l'expertise judiciaire, ça coûte relativement cher. Mmh. Alors, attendez, il y a un attentat, le micro a glissé. Alors, attendez, je règle mon micro, excusez-moi.
Donc, ça coûte relativement cher.
Ouais, ça coûte relativement cher, mais j'imagine que vous êtes assuré, vous avez une assurance habitation.
Oui, on a une assurance habitation, on a pas mal de... Mais le problème, c'est que l'assurance habitation ne veut pas prendre la toiture.
Ah, il y a une explication particulière. Pourquoi est-ce
oui,
que
en fait, non, en fait, la toiture rentre dans le cadre de la décennale. Donc nous, quand on a commencé la procédure, mais on les a contactés dans le sens d'avoir avec eux discuté s'ils avaient encore la garantie décennale.
Ouais.
C'est une maison assez récente.
Ouais.
Ils n'ont jamais donné réponse. À
D'accord. C'est-à-dire qu'ils ils donnent pas signe de vie.
Rien du
bon,
tout.
Bon, alors, d'abord,
donc, je vous explique un petit peu, Maître Serin. Donc, on a pris un avocat qui a écrit à l'agence, parce que pour lui, en fait, même l'agence a failli dans son devoir de conseil.
Ouais, alors faut faire attention à ça quand même. C'est-à-dire que l'agence et vous l'avez dit très justement, vous savez, en règle générale, c'est comme une demoiselle moche qui se maquille, un peu être belle le matin, et puis en vérité, dans le quotidien, elle est pas si terrible que ça. Et ben la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais vous la vendre, on va faire des travaux, on va mettre une belle peinture, et puis tout est beau. Ouais. Donc l'agence, ça me semble, ou alors faudrait démontrer qu'elle aurait eu entre guillemets une connaissance pour essayer d'établir sa responsabilité. Bon,
je vous donne un détail.
Ouais.
En fait, la première visite, on a vu que sur le parquet, il y avait des. Ça a gondolé un peu.
Mm-hmm.
Donc, on leur a posé la question. L'agent qui nous a aidés, dans le sens, il nous a dit qu'ils ont oublié la fenêtre ouverte et donc il y avait pas mal d'eau qui est rentrée.
Ouais.
Parce que ce n'était pas le cas.
D'accord, ouais, c'était pas le cas. Bon, d'accord.
Ouais, c'était pas le cas du tout.
Bon, alors. L'agence peut entre guillemets être mise en cause, hein, il y a pas de difficulté, mais les premiers évidemment responsables sont les anciens propriétaires.
D'accord.
Mais je revenais à votre compagnie d'assurance, vous pouvez, alors il faudra d'abord, selon moi, pour que votre dossier soit carré, demander une expertise judiciaire. Alors c'est une expertise qui se fait en référé, c'est une procédure d'urgence, et ça a priori ça peut être pris en charge par votre compagnie d'assurance. Et une fois que l'expertise aura été faite, donc pour être certain des difficultés que vous connaissez, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'assigner les anciens propriétaires.
D'accord.
Et de deux choses l'une, donc soit vous demandez éventuellement l'annulation de la vente, c'est-à-dire en disant vous êtes gentil mais vous allez me restituer mon argent et on en reste là avec votre maison toute pourrie, soit vous demandez évidemment donc des dommages et intérêts en fonction des travaux qui pourraient être faits.
Justement, après on a attendu qu'ils répondent en fait à nos courriers et le souci c'est comme ils n'ont pas répondu, donc moi j'étais dans l'obligation, j'ai fait des devis. Que j'ai transmis à l'agence,
ouais.
On a fait des travaux, donc on ne pouvait pas attendre parce que C'était l'hiver qui arrivait.
Bien sûr, non, non, mais bien sûr. Non, non, mais ça, entre guillemets, si demain il y a une procédure judiciaire, le personne vous en voudra. C'est-à-dire qu'il faut, il faut évidemment combler au plus vite donc les difficultés que vous rencontrez. Donc le fait d'avoir fait éventuellement les travaux, voilà, le magistrat vous en voudra pas. C'est dans l'urgence. Et puis d'ailleurs, vous avez une obligation de, j'allais dire, de faire en sorte que tout ça ne s'aggrave pas. Donc voilà. Donc vous l'initiative est bonne. Bon, après, vous avez bien compris, vous allez rentrer dans, en dehors de la procédure de référé, c'est-à-dire de la procédure d'expertise, et ensuite de la procédure au fond, comme on dit. Ce sont des procédures qui sont longues. Alors, pour donner un timing, si tant est qu'on puisse en donner un, mais voilà, ce sont des dossiers où, si ça dure un an et demi, deux ans, voilà, on est effectivement content. Donc, vous allez rentrer dans une bataille qui risque d'être longue.
Longue, oui.
Mais voilà, il y a pas mille options. On peut pas vous vendre un bien qui a l'air comme ça de l'extérieur tout propre, et puis une fois que vous mettez les pieds dedans, vous rendez compte qu'il y a que des difficultés. Mais c'est une bataille qui risque d'être quand même assez longue. Hein.
Ok, d'accord. Je vous remercie en tout cas, Maître Serin.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, bon courage et bonne journée à vous.
Merci bien.
Merci Karine. Karim, pardon.
Merci Philippe.
Au revoir. Alors c'est Abbas qui est avec nous. Abbas.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Abbas.
Bonjour Abbas.
J'ai une petite question. Ça fait 20 ans que moi je suis en France.
Oui.
Et il y a 5 ans, 6 ans à peu près, j'ai ramené ma petite famille d'Algérie, ma femme et 3 enfants, 2 qui sont devenus adultes et un qui a 10 ans, qu'on est en alternance. Je travaille à mon coin, je gagne très très bien ma vie, mais le problème, ce qui se pose, c'est que je m'entends très très mal avec les grands. Et on ne se parle plus, ça fait 2-3 ans à peu près, depuis qu'ils ont eu leurs documents et leurs papiers.
D'accord.
Je voulais poser cette question-là. Comment ça va se passer avant? Puis là, pour le moment, ils me renient, je ne veux rien laisser. Et le petit, il n'a rien dans l'histoire, pour le moment, ça se passe super bien avec lui. Mais avec mon ex et les grands, comment, je sais pas, avec le corona, je peux mourir aujourd'hui ou demain, quoi.
Ouais, alors on peut pas, par la loi, on peut pas déshériter totalement ses enfants. Alors dans des cas très exceptionnels, on parle d'indignité, c'est-à-dire que si l'un de vos enfants, par exemple, a essayé, alors pardon pour ce que je vais vous dire, c'est pas joli, mais a essayé de vous éliminer, a essayé de vous tuer, enfin vous voyez, c'est-à-dire que la notion d'indignité de l'héritier, on est dans des choses extrêmement graves. Maintenant, un enfant qui serait ingrat, qui viendrait pas vous rendre visite ou autre, ou voilà, qui s'est jamais préoccupé de vous, de votre santé et autres, alors ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, c'est-à-dire vous pourrez pas, monsieur, le déshériter. Il y a ce qu'on appelle une quotité disponible, c'est-à-dire qu'il bénéficiera forcément de quelque chose. Donc vous pourrez pas les zapper en disant, bon, les gars, vous êtes ingrats et insupportables, au revoir, et puis si demain m'arrive quelque chose, vous n'aurez rien.
C'est impossible, mon
papa. Non, c'est impossible. Je vous dis, après, voilà, on est dans des cas extrêmes et particuliers. Mais en dehors de ces cas malheureux et bien tristes, non. Oui, vous avez des enfants qui entre guillemets malheureusement sont extrêmement ingrats avec le ou les parents, mais vous ne pourrez pas, monsieur, les déshériter complètement.
D'accord.
Ouais.
Merci.
Ouais, c'est triste comme situation.
Dit comme ça, Maître Serral.
Non, mais c'est triste comme situation, évidemment. C'est-à-dire que, encore une fois, voilà, je suis moi-même père de famille. C'est-à-dire que quand un père dit voilà, mes enfants se comportent de telle ou telle manière, oui, ça vous arrache le cœur, évidemment. Donc, ce sont des situations humainement extrêmement tragiques, bien sûr. Ouais, voilà. D'accord.
On peut tout dépenser avant, hein.
Ah non, mais après il y a aussi la possibilité. Non, mais bien sûr.
Mais je veux laisser un petit peu pour le petit.
Ouais, non, mais bien sûr, mais ça je peux comprendre, évidemment. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors sous le ton de la plaisanterie, cette histoire de viager pour rien laisser aux enfants qui, par définition, sont ingrats, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si la question c'est est-ce que je peux les déshériter totalement, non.
Je voulais pas accéder à la propriété par rapport à ça pour ne rien laisser.
Ouais.
Ouais, mais voyez, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est obligé de paramétrer sa vie en fonction de la situation, du comportement plutôt de vos propres enfants. Donc, voilà. Donc, qu'un père de famille parle comme ça, j'imagine que pour vous, ça doit être extrêmement dur, évidemment. Mais oui, c'est comme ça. Bon, il y a des enfants qui méritent que des coups de gourdin sur la tête et rien d'autre. Bon, qu'est-ce que vous voulez?
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci Abbas pour votre question.
Au revoir.
Allez, d'autres questions à Maître Serran. C'est des questions de la vie, ça, hein, effectivement. Ouais. 01 53 48 3000, si vous voulez poser vos questions en direct à Maître Serran. 01 53 48 3000.
Beurre FM, la rediff. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran qui répond à vos questions au 01 53 48 3000. Alors, nous avons Mostafa qui est avec nous. Mostafa, bienvenue.
Bon.
Bonjour Mostafa.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Très bien, merci. Je vous appelle pour un petit souci d'ordre travail. Je suis considéré personne à risque. J'étais en chômage partiel pendant un moment suite à la délivrance de mon médecin de travail d'un certificat d'isolement. Mon employeur a signé un accord avec les partenaires sociaux, avec les élus, pour un prolongement jusqu'au mois de juin. Et la semaine dernière, on m'envoie un mail pour m'inciter à reprendre mon travail. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas passé la visite médicale.
Vous avez, là où vous travaillez, un syndicat quand même ou pas?
Oui.
Oui, bon, est-ce que vous les avez quand même contactés pour leur faire part de cette situation?
J'ai contacté un élu.
Ouais, qu'est-ce qu'on...
Il m'a dit oui, ça serait bien que tu reprennes le travail. Alors que malgré le fait que je sois un personne à risque, avec un certificat d'isolement, c'est d'ailleurs deux certificats que j'ai fournis.
Non mais enfin, à partir du moment où médicalement, monsieur, vous en justifiez, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous êtes ou vous seriez feignant, un mauvais élément ou autre. C'est médicalement attesté. Il faudra rester dans la position qui est la vôtre. Mais je vois pas comment vous pourriez être, entre guillemets, attaquable si vous ne faites pas, comme on dit avec ce mot à la mode, de présentiel. Donc là, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Parce que vous me dites, vous avez les certificats médicaux, qu'on atteste de votre fragilité. Bon, eh ben, vous restez dans cette posture. Il faut évidemment, un, pas courir le moindre risque. Et deux, je vous dis, à partir du moment où vous êtes médicalement couvert, votre employeur peut pas chercher des poux dans la tête.
Parce que vous êtes allé à la médecine du travail?
Non, pas encore. J'ai repris lundi.
C'est une question, parce que j'aurais commencé par la médecine du travail avant la reprise du travail. Non?
Et la médecine du travail, mon responsable n'a pas pris de rendez-vous.
Ouais.
Du coup, moi, quand j'ai appelé, on m'a donné rendez-vous 3 semaines après.
Bah, mais vous les avez quand même appelés, c'est ça, la médecine du travail.
Vous avez pris l'initiative de les contacter? Ouais.
Oui, c'est
d'accord.
Bon.
D'accord. Voilà. Donc ils sont informés. Alors on vous a fixé un rendez-vous, mais entre guillemets un peu lointain, tel que vous. Oui. Mais encore une fois, entre le moment où le rendez-vous vous a été fixé et aujourd'hui, vous pouvez encore une fois justifier de votre non-présence physique au sein de la société avec ces fameux certificats médicaux. Et a priori, je vois pas comment la médecine du travail pourrait passer outre. Donc elle confirmera, selon moi, sans aucune difficulté. Enfin voilà, sous réserve que les certificats médicaux sont des certificats motivés, sérieux. Enfin voilà, pas un truc bidonné. On est d'accord là-dessus. Part au moins sur ce postulat. Donc à partir du moment, monsieur, où c'est carré, vous pouvez faire cette démarche tranquillement et vous verrez que la médecine du travail ira dans ce sens-là. Évidemment, ils vont pas courir le moindre risque.
Si j'ai bien compris, en attendant le rendez-vous de la visite médicale, je peux rester chez moi sans être embêté.
Ah mais vous êtes alors embêté, c'est-à-dire qu'après tout dépend de votre employeur s'il joue le pénible ou pas, mais dans l'hypothèse où il jouerait le pénible, il n'aurait pas beaucoup de marge de manœuvre pour vous embêter. Encore une fois, c'est médicalement justifié et carré, c'est tout ce qu'on demande dans ce type de situation. Donc à partir du moment où vous avez ça sous le coude, il n'y a pas de problème.
Joue le pénible.
En fait, ouais, mais selon moi, bon, encore une fois, Alors, il est pénible. Alors, il faudra qu'il soit définitivement con s'il décidait de vous poursuivre autre. Mais là, il joue le pénible en se disant que vous allez peut-être céder et puis vous vous renseignerez pas. Mais à partir du moment où les choses sont claires et je le redis, vous justifiez vos certificats médicaux, bah, il jouera peut-être le pénible, mais il ira pas plus loin, bah, parce qu'il il se mettra en faute tout seul.
D'accord.
Okay, voilà.
Je vous remercie beaucoup, maître.
Merci à vous pour cet appel et bon courage à vous. Bon week-end.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, nous avons Malika qui est avec nous. Malika, bonjour et bienvenue, Malika.
Bonjour.
Bonjour, Malika.
Bonjour, Malika.
La question concerne le changement de bénéficiaire d'une assurance vie. Donc, il y a une personne qui souhaite changer son bénéficiaire le bénéficiaire de son assurance vie. Mmh. Maintenant au début 2020 et la personne elle est sous curatelle simple et son curateur ne signe toujours pas ce document. Quelle est la démarche à suivre?
Alors d'abord, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que le curateur s'y oppose. C'est qu'a priori peut-être il a senti quelque chose de malsain ou de nauséabond. Maintenant, si vous avez l'impression que le curateur s'y oppose pour de mauvaises raisons, ou alors si ces raisons ne sont pas motivées, vous vous retrouverez devant ce qui s'appelle, en tout cas la personne se retrouvera devant le juge des tutelles. C'est le juge des tutelles qui prendra l'ultime décision, à savoir qui du curateur ou de l'intéressé a tort ou raison. Et si on considère que ce changement de personne dans l'assurance vie, il n'y a rien à, entre guillemets, à contester et que ça pose pas de difficulté, ben le juge des tutelles passera évidemment outre la décision du curateur. Maintenant, je peux comprendre quand on est sous tutelle, sous curatelle, je peux comprendre évidemment que la personne qui est concernée par ça, en tout cas qui contrôle cette histoire de tutelle ou de curatelle, s'assure que tout ça se passe sans aucune difficulté, qu'il n'y a pas une influence particulière, que c'est pas une jeune demoiselle bien pulpeuse qui fait en sorte que, enfin voilà, on prend en considération ces éléments-là et c'est normal. Maintenant, s'il y a un litige avec la personne qui s'occupe, en tout cas qui est missionnée pour la curatelle, il y a un magistrat pour ça, hein, dont c'est la fonction, et puis il faudra saisir le juge. Allô ?
Oui.
Oui ?
Oui, oui, ok. Très
voilà. Bien. C'est vous la bénéficiaire, non ? Enfin, la non. Future bénéficiaire ?
Non, non.
D'accord.
Non, non.
Bon, dans l'hypothèse où ce serait vous, contactez-moi tout à l'heure, il y a des techniques hein, pour pouvoir vous imposer.
Chut, des bêtes.
Non, bah non, faut pas dire ça.
Non, faut pas le dire à l'antenne, maître.
Ah bon, pas à l'antenne. Bon, appelez-moi tout à l'heure, on en reparlera en tête à tête. Bon, en tête à tête, au téléphone. Non, je dis, c'est pas vous la bénéficiaire.
Non.
D'accord, voilà, c'est pour ça. Je lui dis, si c'était pour vous, peut-être que je trouverais une technique pour. Mais Philippe Robichon ne veut pas.
Mais on si peut la dire ça. Vous
ah oui, non, non, mais elle peut me contacter, bien sûr. Enfin voilà, je lui donnerai les coordonnées de notre ami, mon cher Philippe Nico, qui s'occupera de. Et vous savez comment ça se passe. Non, écoutez, elle peut m'appeler, il n'y a pas de difficulté. Elle peut m'appeler.
D'accord, ok, très bien.
Merci Malika.
Merci Malika.
Au revoir.
Au revoir. Allez, on termine avec Nora qui est avec nous. Nora, bienvenue. Bonjour, bonjour Nora.
J'ai une question me concernant. En fait, il y a quelques années, en 2011, j'ai eu un accident de trajet. On m'est rentré dedans par l'arrière. Suite à ça, j'ai eu deux opérations, genou gauche et épaule gauche. Et en fait, j'ai rien eu de la part de la personne, aucune indemnité. Et à ce jour, en fait, les séquelles m'handicapent au quotidien. Et je dois revoir un chirurgien qui va peut-être me dire de me faire réopérer. Du coup, je ne sais pas comment me faire, en fait. Parce que moi, dans l'histoire, en fait, je suis perdante parce que au jour d'aujourd'hui, je suis pas handicapée, mais il y a plein de choses.
D'accord. Est-ce que vous avez été, voilà, vous avez été indemnisée à la suite de cet accident?
Non,
mais alors
c'est. J'avais une assurance.
Ouais.
Je sais plus comment ça s'appelle, prévoyance santé.
D'accord.
personne.
Non, mais alors, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que votre assurance vous indemnise, mais elle ne fait pas ça parce qu'elle vous trouve forcément sympathique. C'est-à-dire que l'assurance qui va vous indemniser, il faut bien qu'elle récupère cet argent quelque part. Et l'argent, elle va le récupérer auprès de l'intéressé ou de l'assurance de l'intéressé. Donc, à la fin, c'est quand même l'assurance de ce type-là qui met la main à la poche, hein. Encore une fois, votre d'accord. compagnie d'assurance, elle fait pas ça parce qu'elle est généreuse. Donc, elle vous indemnise, mais elle récupère les sous derrière. Maintenant, si vous avez effectivement votre situation qui se serait dégradée et autre,
dégrade de nouveau, bon, en fait.
Eh ben, vous avez la possibilité, alors, de vous, d'abord, rapprochez-vous encore de votre compagnie d'assurance, parce qu'elle pourra éventuellement
même
vous.
Même si je suis plus assuré chez eux.
Alors. Le litige, alors c'est toujours évidemment pénible puisqu'ils pourront entre guillemets mettre ça en avant, mais dans la mesure où c'est un litige qui a eu lieu alors que vous étiez assuré chez eux, donc ils vont quand même reprendre le dossier. Après, ils peuvent, enfin ils vont probablement vous inviter à faire l'objet d'une expertise pour voir si les difficultés que vous rencontrez sont liés directement donc à cet accident initial. Donc à partir du moment où on a ce qui s'appelle le lien de causalité, c'est-à-dire il faut que ce soit évidemment directement lié à cet accident, vous avez la possibilité, si votre situation s'est dégradée, vous avez la possibilité, sous réserve encore une fois de montrer ce lien de causalité, la possibilité donc d'obtenir, on va dire, un supplément financier.
Oui, parce que ça empathie sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Il y a plein de choses que je peux plus faire, quoi. Même le sport, j'étais anciennement balleuse, je peux plus faire.
Il y a un délai de prescription ou pas?
Ouais, bah c'est ça.
Ça remonte.
C'est
ouais, la question c'est ça. C'est pas, est-ce qu'il y a un délai de prescription pour agir?
Alors là, en fait, il y a toujours un délai de prescription en matière de compagnie d'assurance qui est de 2 ans pour engager la responsabilité de votre compagnie, en tout cas pour inciter votre compagnie d'assurance à mettre la main à la poche. Ensuite, encore une fois, là en la matière, puisque ça a été établi, donc vous pouvez demander, là à ce moment-là, il n'y a pas de ce délai de prescription. Vous pouvez demander une nouvelle expertise. Encore faut-il. Et c'est difficile au bout de X années, encore faut-il que ce soit démontré comme quoi c'est effectivement lié à cet accident ou à cette difficulté initiale. Et c'est là où ils essaient, entre guillemets, de tacler. Donc et la difficulté peut venir de ça, de démontrer que c'est lié à.
Et si j'arrive à le démontrer, après il n'y a pas de souci, je peux.
Ah non, si vous arrivez à le démontrer, il n'y a pas de difficulté. Alors on reverra le montant de l'indemnisation complémentaire en fonction encore une fois du préjudice subi. Mais c'est parfois difficile de démontrer. Vous avez bien compris qu'en face, évidemment, on jouera sur. Alors je ne sais pas quelle activité vous faisiez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voyez, on va mettre toute une série de paramètres pour dire que vous êtes déjà, entre guillemets, fragilisé et que ça n'a rien à voir avec l'accident que vous avez pu subir il y a X années. Mais ça, c'est de bonne guerre.
Deux opérations suite à cet accident.
Ah non, encore une fois, je le redis, eux, leur mission, ça va être ça. Ça va être leur mission, c'est de faire en sorte de déconnecter ce que vous vivez, de le déconnecter par rapport à l'accident initial. Maintenant, à charge pour vous de démontrer que tout ça est lié, mais si c'est lié, il n'y aura pas de difficulté là-dessus.
D'accord, ok, parfait.
Voilà, est-ce que vous avez une autre question à poser à Ahmed Serhan, Nora?
Est-ce que je pourrais le contacter en dehors de la radio?
Ah oui, bien sûr, oui, ne n'hésitez pas.
Alors donnez votre numéro pour tout le monde, Maître Serhan, allez-y.
Je vais vous donner mon numéro, ouais. Je suis joignable au 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64. Je vous ai déjà raconté, je crois, j'ai une cousine qui s'appelle Nora et qui est tombée un jour du 5e étage et toute petite, à peine 1 an, pas une égratignure. Tu le crois ça? Ah ouais, Nora.
Bah c'était la volonté d'Allah.
Ouais. Enfin voilà. Bon, c'était. Il y a aucun rapport.
Non, avec notre auditrice, bah là, j'ai cherché le rapport, mais c'est rare. Mais bon.
Non, parce que notre auditrice s'appelle Nora et puis cette
ça vous a fait penser à ça, d'accord? Vous êtes connecté dans votre cerveau.
Ouais, voilà. Bon.
Merci Nora.
Merci Nora.
On fait un gros bisou Nora.
Au revoir.
Voilà, Maître Serran revient vendredi. Dans un instant, il est déjà là. Vous retrouvez l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent. Nous aurons Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, dans un instant, qui répondra aux questions de l'imam Abdelali. Restez avec nous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.